petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme, bravo.
Eh bien, voilà, après Tribune Sport et après avoir rendu hommage donc au sport martiniquais, on va rendre hommage maintenant, Samuel, au foot martiniquais. Hein, on aura encore un beau panel d'invités ce matin.
Très bien, le foot martiniquais qui rayonne dans au niveau caribéen, dans le bassin caribéen, le foot martiniquais est un football très remarqué en tout cas et très apprécié.
Alors, on attend donc le CTR, on attend aussi je crois le vice-président de la Ligue martiniquaise de foot, mais on est avec eh bien, le président du club, j'allais dire le plus en vogue actuellement du côté de la Martinique, hein, c'est Joseph Peraste. Bonjour Joseph.
Bonjour, président. Bonjour aux auditeurs.
Ouais, vous êtes un président heureux.
Oui, en ce moment, oui, Dieu merci. C'est vrai que la Samaritaine, club du Nord Atlantique de la Martinique, nous sommes en tête de championnat et malgré cependant un match en retard. Hein. Mm-hmm. Je remercie mes joueurs à ce niveau et je pense que nous allons poursuivre l'année dans de bonnes conditions.
Alors, comment ça se passe les matchs en Martinique? Le calendrier est le même ou il y a un petit décalage?
Mais il y a toujours des petits décalages. Le calendrier, on a un planning en début de saison, mais qui est toujours appelé à modification, soit en fonction des programmations de la Coupe de France. Par exemple, nous, à la Samaritaine, du fait que nous sommes arrivés quand même jusqu'au 8e tour, nous avons eu des matchs en retard, donc il faut rattraper. Nous devons aussi jouer la Ligue Antilles, nous devons aussi jouer notre championnat. Donc il y a Coupe de France, championnat, Ligue Antilles et aussi Coupe de Martinique. Donc tout cela amène des fois des modifications et des fois très importantes, ce qui fait que j'ai eu même à rouspéter il y a quelques jours en disant que mes joueurs étaient considérés comme des professionnels puisque nous jouions un match tous les 48 heures.
Bien sûr. Alors justement, l'exploit récent, c'est cette participation à la Coupe de France,
hein,
avec une élimination, mais sans démériter contre Arles. Hein.
Oui, tout à fait, puisque à 90 minutes de jeu, ça aurait été un match de championnat, donc ça aurait été un match nul.
Oui.
Et aux premières 15 minutes de prolongation, nous avons encore tenu, et c'est simplement à la deuxième mi-temps de cette prolongation qu'ils ont eu à marquer le deuxième but fatal, et but marqué par un Martiniquais, un professionnel, Sabin, que nous connaissons bien. Donc, ce qui m'a amené à dire que la Martinique a perdu à cause du Martinique.
Et vous aviez, je crois, au tour précédent, gagné du côté
des Sables d'Olonne. Ouais, ça s'est passé à Paris, au stade d'Aubervilliers. Et donc, nous avons eu à gagner 1-0.
Mmh, d'accord. Alors, comment ça s'est passé, ce séjour en métropole, du côté d'Arles? Comment on se prépare pour un match comme ça?
Eh bien, nous avons eu à passer 8 jours dans un centre, hein, au sud de Créteil, là. Nous avons fait les 8 jours, et quand même avec une température très basse, hein, puisque nous arrivions en période de fin d'année, donc période hivernale, voilà. Mais nos joueurs se sont adaptés sans problème, puisque en 4-5 jours, hein, c'est vite fait. Ils ont eu des entraînements très tôt le matin, 6 heures. Et puis dans l'après-midi, donc ce qui fait qu'ils ont eu à s'adapter et on a joué, nous avons pu supporter, mais quand même le froid se faisait ressentir parce que dans la mesure où au cours de la deuxième mi-temps on a senti quand même un ralentissement chez nos joueurs. Mm-hmm. Et on s'est dit heureusement quand même qu'on avait marqué dès la première mi-temps.
Ouais. Surtout 6 heures du matin en métropole en plein mois de décembre, il fait froid.
Oui, très très froid, donc à la fin on arrive à avoir un petit problème de blocage, ce qui fait qu'on est moins rapide.
Mmh. Et puis au niveau du décalage horaire, il a fallu gérer ce problème?
Tout à fait, mais je pense que 8 jours, on a le temps de s'adapter quand même. On a le temps de s'adapter. Sincèrement, même si on avait perdu, on n'aurait pas dit que c'était à cause du décalage horaire.
Mmh. Il y a des regrets quand même d'avoir échoué si près, si peu.
Regret, à un certain moment, on se dit oui, on regrette d'avoir échoué si près. En même temps, non, parce que vu la fatigue qu'enregistrent les jeunes lors de ces déplacements, eh bien, nos objectifs concernant le championnat auraient été contrariés, ainsi que nos objectifs concernant la Ligue Antilles et même la Coupe de Martinique. Parce que je crois que d'histoire de la Martinique, les équipes comme le club franciscain qui nous ont précédés, qui sont déjà arrivés à ce stade, eh bien, à chaque fois qu'ils retournaient au pays, c'était une défaite. contre les équipes de championnat. Bon, nous avons surmonté cette épreuve. On a eu à battre d'ailleurs le RC Rivière Pilote dès notre tour, ce qui a été un exploit. Mais deux matchs après, ça s'est ressenti, puisque face à l'essor au Préchotin, on a eu un match nul. Hein, et puis là encore, réveil sportif, où nous avons eu une défaite, qui n'est pas énorme, mais qui est quand même une défaite. Et je pense que c'est dû un peu à la fatigue, puisque mener comme ça en tandem la Coupe de France, c'est pas évident.
Bien sûr. Ça reste une épreuve magique, hein, la Coupe. Hein. C'est fait pour ça.
Ouais. Puis je crois que l'engouement vient surtout du fait qu'on part en métropole, c'est quand même quelque chose pour ces jeunes. Hein. Il y en a peut-être parmi eux, c'est la première fois qu'ils vont en métropole. Puis deuxièmement, ils ont eu à connaître, à visiter Troyes, puisque nous avons eu l'occasion d'organiser des visites, un peu de shopping et tout. Mm-hmm. Donc c'est quand même, ça reste et demeure un passage merveilleux.
Alors Philippe, je voulais simplement dire, au niveau des clubs daumiens, qu'effectivement, cette année a été une très bonne année, parce que l'ensemble des clubs daumiens, les trois départements, là, ont passé effectivement le 7e tour.
Ouais.
Ensuite, on s'est retrouvé au 8e tour. Et c'est cette barre-là, président, qu'on n'arrive pas à franchir.
Tout à fait.
Avec l'expérience que vous avez maintenant de tout cela, qu'est-ce qu'il manque au club antillais pour aller plus loin, arriver au 16e de finale?
Eh bien, je pense que ce qui manque, c'est d'abord, il faut qu'ils y croient. Hein, parce que quand on arrive là, on se dit, bof, on y va, mais on pense qu'on va perdre.
C'est déjà bien, quoi.
Ouais.
C'est ça,
on se dit, bof, on a déjà fait beaucoup. Alors que non, il faut y croire. Il faut y croire jusqu'à la dernière minute. Et puis, je crois qu'il faut aussi que nos joueurs préparent mieux ces rencontres. Parce que moi, j'ai essayé de le faire, d'ailleurs. C'est pourquoi nous sommes arrivés si loin, parce qu'ils sont restés ouverts. Hein. Je les ai gardés quand même 4 jours dans une structure d'hébergement en Martinique. Mais ce n'est pas évident, parce que ces jeunes travaillent. Et négocier cet aspect avec les chefs d'entreprise, c'est pas évident. Donc on peut avoir 10 joueurs, 9 joueurs comme ça qui peuvent passer ce séjour, mais 2 ou 3 qui sont obligés d'aller au travail pendant la journée et puis venir dans le centre d'hébergement le soir. Donc c'est pas évident. Donc un peu cette préparation, je dis, il faut qu'ils aient cette disponibilité pour qu'au niveau de la tête même, que l'on soit tranquille, que l'on soit serein. Et puis je crois que l'expérience du tour d'avant a été quand même fédératrice, du moins dans la mesure où les jeunes sont restés ensemble pendant 8 jours. Eh bien, ça aussi, c'est très, très bon pour la préparation de telles rencontres.
Ça resserre les liens.
Oui, ça resserre énormément les liens, tant entre les joueurs qu'au niveau du staff et le comité directeur et les joueurs. Hein, c'est extraordinaire.
Ça solidifie un groupe, comme on dit.
Tout à fait.
Ça, vous allez en avoir.
Et on découvre les individus d'une autre façon.
Vous avez eu des supporters, certains Martiniquais ont fait le déplacement et sont venus.
Eh bien, oui, c'est quoi que c'est la première fois que la Martinique a connu cet événement. Je dois vous dire qu'on a eu quand même un club de supporters qui a compté à peu près 850 passagers, 850 personnes qui ont pris l'avion dans la semaine pour se rendre à Paris. C'est énorme.
Ah oui, oui.
Énorme. On n'a jamais connu cela de l'histoire de football de la Martinique. Donc je crois que c'est un événement qui a réconcilié pas mal de Martiniquais, pas seulement des Samaritains, mais vraiment les habitants de la Martinique, car la Samaritaine, qui est un club du Nord-Atlantique, avait toute la Martinique à ses côtés. Et ça, c'est formidable. Et je crois que ça a eu même des incidences, puisque à l'heure actuelle, nous sommes en train de préparer la Ligue Antilles. Eh bien, nous avons battu l'équipe de Guadeloupe, l'équipe de Moule, de l'Étoile de Mornalo du moins, ici, et nous devons les rencontrer donc le 9 février. Eh bien, beaucoup de Samaritains nous disent déjà quelle est l'agence choisie, par quelle agence nous sommes passés, parce qu'il y a des gens qui veulent aller en Guadeloupe accompagner le club, pourtant ce n'est que la Ligue Antilles. Donc il y a une espèce d'émulation qui est créée, une espèce d'ambiance autour du football, et je crois que cela laisse augurer un bel avenir pour le football martiniquais, ou encore un regain de dynamisme autour du football.
Et puis le retour au quotidien, ça a été facile quand vous êtes revenu ici en Martinique?
Pas du tout, surtout pour les joueurs. Et puis je crois que l'aspect le plus difficile aussi, c'est de tenir c'est de maintenir cette ambiance, parce que quand nous sommes revenus à la Martinique, eh bien on avait un aéroport complet, mais vraiment un monde fou, on aurait dit des vedettes, des stars qui arrivaient. Donc il fallut quand même un peu gérer cet aspect, et pendant plus d'une semaine à Sainte-Marie, c'était la fête. Ensuite, être reçu par les présidents des collectivités, être reçu par les municipalités. Donc tout cela, il fallait que les joueurs gèrent. Et je me dis, effectivement, même aujourd'hui, j'ai l'impression que nous payons un petit peu les conséquences de ces différentes manifestations.
Mmh. C'est-à-dire que c'était plus dur à repartir après dans les matchs de championnat.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Voilà.
Mmh. Justement, président a parlé de problème de décompression, parce que c'est vrai qu'après une telle épreuve, on a du mal à se remettre donc au niveau local. Mais là, en général, président, vous le disiez, hein, ça arrivait beaucoup plus tôt. Ça veut dire que dès le retour du club en Martinique, paf, il y avait la défaite qui suivait derrière, parce que bon, on était... Mais là, la Samaritaine, on aurait dit, et vous me dites, président, si je me trompe, que la décompression dont on parle a eu lieu un peu plus tard.
Voilà.
Par rapport à quoi, d'après vous?
Eh bien, soit parce que j'étais tellement bien préparé, les jeunes là-bas, puisque nous nous sommes dit, je leur ai dit, il faut que l'on passe ce cap, et on est passé de très près, hein, il fallait que l'on le passe, et ils étaient encore concentrés sur le match contre Arles. Ça, ils se sont dit, il faut qu'on gagne. Et je crois que c'est justement parce qu'on a perdu là, parce qu'en fin de compte, j'aurais préféré dire, ça va peut-être faire mal à certains, mais j'aurais préféré de perdre peut-être 4-5-0 que de perdre comme on a perdu là.
Oui, ça laisse moins de regrets, quoi.
Vous savez, on se dit que ça y est, c'était fait. Parce que arriver à 90 minutes de jeu avec un match nul, et pourtant chacun nous avons marqué de notre bord, un à un, hein, c'est clair, si on n'avait pas marqué du tout, mais on a marqué, ils ont marqué d'abord, tout de suite nous avons marqué. Arrivé à 90 minutes de jeu, bon, première partie de 15 minutes, on a encore tenu le coup, donc nos joueurs s'attendaient à finalement à des tirs au but. Bon, et on s'était même dit qu'on aurait gagné au tir au but, parce que on avait constaté dans l'équipe d'Arles qu'il n'y avait effectivement que de très bons tireurs, hein, c'était le Martiniquais Sabin, et puis l'un des attaquants, celui qui avait fait un tir dès les 20 ou 30 mètres et qui a échoué sur la transversale. On avait repéré ce joueur qui avait cette trempe, mais en gros les autres sur pratiquement près de 17 tirs au but, bon, il y en avait que 7 ou 8 qui étaient cadrés, bien cadrés, quoi. Donc on avait déjà fait un petit peu le tour d'horizon en se disant, bon, vu la qualité de notre gardien, on pouvait affronter sereinement les tirs au but. Donc on était un peu préparé à cela. Et puis quoi, 5 minutes à la fin du match, le Sabin qui marque, et on s'est dit, bon, eh bien, on est vraiment passé très 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 près. Très 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 près. Seulement on a donné une très belle prestation, car on en avait pour jusqu'à la fin du match, où le suspense était là, hein, personne ne savait qui allait perdre, qui allait gagner, et donc voilà, c'était un épisode extraordinaire. Mais je me dis que c'est peut-être à cause de cela que deux matchs après, ou pratiquement un mois ou 22 jours après, les joueurs donc ont eu à ressentir cette fatigue et puis aussi cette décompression, et ce qui nous a amené à d'abord un match nul et puis la défaite face à un club aussi qui ne démérite pas. Le Réveil Sportif, c'est quand même peut-être l'un des meilleurs du moment, au moins l'équipe qui a la meilleure attaque pour 2007-2008.
D'accord, donc le championnat, ça reste maintenant la priorité, plus que jamais.
Ah, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, nous sommes encore premiers, face à côté de l'ancien champion, le club franciscain. Et puis, nous savons que nous avons quand même un match en retard, donc la possibilité d'avoir nos 3 points d'avance.
Alors, parlez-nous un peu de votre groupe. Comment est-il, ses qualités et ses faiblesses?
Bon, alors c'est un groupe composé quand même de très jeunes joueurs. Oui. Hein, nous avons donc en gros une moyenne d'âge de 21-22 ans.
Donc formé au club?
Oui, oui, formé au club, sauf deux ou trois qui sont, trois même, qui sont venus cette année, qui ont été recrutés sur le département. Mais pratiquement tous les jeunes Samaritains, donc formés au club, hein, et ont fait leur jeunesse au sein du club. D'ailleurs, c'est ça la force de la Samaritaine, parce qu'on dit toujours que la Samaritaine a pour habitude de produire des jeunes pour les autres clubs de la Martinique, hein, puisque même au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Samaritains qui jouent un peu dans les différentes équipes de Martinique. Donc ce sont des jeunes. Seulement, on note des fois, quand on a fait un si beau travail pendant tant de temps, perdre un jeune comme Gaël Germani, notre capitaine d'équipe, notre meilleur jeune qui a été qualifié d'ailleurs le meilleur joueur de l'année 2007, hein, eh bien, au moment où il reçoit cette coupe, il nous apprend qu'il nous quitte pour aller à Arles. Ouais. Donc, ah oui, les responsables de ce club d'Arles ont dû batailler très dur et ils ont dû harceler ce jeune pour qu'il puisse partir du soir au lendemain, sans attendre la fin du championnat, donc pour aller terminer un championnat avec l'équipe d'Arles. Donc, ça aussi, ça fait mal, ça fait partie des mésaventures d'un président de club. Mais je dois dire que nous avons une équipe très homogène et très rapidement, d'ailleurs, nous avons pu remplacer ce grand joueur qu'est Gaël Germani. et puis pour essayer de poursuivre notre championnat sans qu'il y ait de creux. Hein. Mais une équipe homogène, une belle équipe où des jeunes en veulent, ils sont quand même sympathiques, ils essayent de respecter leur entraîneur, respecter les objectifs, et puis faire de façon à ce qu'en fin d'année, bon, ben, c'est une équipe qui sorte du lot.
Au niveau infrastructure, vous travaillez dans de bonnes conditions ?
Eh bien, pas du tout, malheureusement. Ah, non, malheureusement.
Pour ça, je pose la question, je m'en doutais.
C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir un rendement au-delà des 70%, dans la mesure où, premièrement, nous n'avons pratiquement pas de stade, donc pas de tribune. Nous avons simplement des strapontins, hein, puisqu'il n'y a pas de tribune couverte. Donc, déjà, en matière de recettes, il y a une défaillance considérable, hein, puisque nos tickets ne sont pas vendus au même prix que les tickets des autres clubs de la Martinique. Deuxièmement, nous constatons que toutes les équipes de la Martinique profitent des rencontres avec la Samaritaine pour en faire leur match de gala.
Oui.
Alors que nous, depuis 5 ans, 5 ou 6 ans, nous n'avons jamais eu de match de gala parce que nous n'avons pas de tribune. Et puis, nous sommes pénalisés quand nous devenons soit les meilleurs en Coupe de France, parce qu'une fois que nous revenons, nous sommes obligés de rattraper nos matchs et jouer en nocturne. Mm-hmm. Jouer en nocturne dit jouer à l'extérieur. Donc, au moment où nous devons recevoir des équipes, nous sommes obligés d'aller jouer sur des stades, des terrains de 30 ou 40 kilomètres de notre commune. Donc, on est encore pénalisés à ce niveau. Alors on se dit, des fois, nous sommes victimes de notre succès, c'est le grand dommage, mais c'est vrai, nous ne bénéficions pas d'infrastructures, et nous aurons, je le dis, hein, puisque je dois partir très certainement de ce club en fin de saison, là, au mois de mai, puisque j'étais élu pour 4 ans, et j'avais dit que je mettais ce club champion et je m'en allais, et ce sera ce qui va se faire, il faut que ça soit bien enregistré, puisque moi, quand j'ai des objectifs, il faut que je les atteigne, c'est très important pour moi. Donc je m'en irai en fin de saison.
Il n'y aura pas un manque ?
Comment ?
Il n'y aura pas un manque ?
Ah, disons que moi je pense qu'il y a toujours des gens qui peuvent dépasser. Ah, ouais. Donc ça je suis sûr, j'ai confiance en l'avenir. D'accord. Puis je me dis que nul n'est obligatoire, hein. Il faut qu'il y ait une relève. Bon, si jamais ça ne va pas au bout de 3 ou 4 ans, je pourrais revenir. Mais je pense que j'ai fait un travail et j'ai préparé pour d'autres. Hein. Je pense qu'au sein de l'équipe, on va trouver des gens qui pourront continuer tranquillement, puisque à vrai dire, je ne fais pas tellement un gros travail. Hein. Je rassemble, j'essaye de gérer le groupe, mais je ne suis pas footballeur. Valeur, je ne suis pas plus fort que d'autres. Hein. Je pense que peut-être c'est un concours de circonstances et je voudrais leur dire qu'il ne faut pas qu'ils craignent. Non, loin de là, ils iront peut-être bien plus loin que moi. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que nous aurons à souffrir davantage dans la mesure où, je vous l'apprends, notre stade sera fermé au mois de juillet parce que la municipalité doit reconstruire un nouveau stade. Bon, un truc qui était prévu depuis plus de 10 ans qui finalement peut-être va aboutir. Mais l'erreur, c'est de reconstruire le stade sur l'ancien stade. Donc, nous allons rester 5 ans, en gros, sans stade. Puisque pour refaire un stade, c'est 4-5 ans. Hein.
Et vous irez jouer où, président ?
Eh bien, au stade de Mondezès, ou encore sur des plateaux avec des trous de crabe le long de la plage, etc. Donc, moi, je me dis qu'il n'y a pas eu une réflexion portée par cette collectivité pour le sport, ou plus particulièrement pour le football. Car nous avons quand même une équipe de l'AS Mondezès qui est une très bonne équipe et qui fonctionne en promotion d'honneur. Hein. Nous avons
Fournol également.
Fournol, qui est une équipe qui marche fort. Bon, eh bien, un seul petit stade qui n'est d'ailleurs pas homologué pour 3 équipes, plus encore d'autres équipes de quartier, bon, ce sera difficile. Et c'est un peu tout cela que je pressens, qui me permet de dire que même si j'ai la puissance que j'ai, ou l'énergie que j'ai, ou l'enthousiasme que j'ai, je ne pourrai pas amener la Samaritaine à caracoler en tête comme elle l'a fait cette année. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas, on n'aura vraiment pas les conditions. Mm-hmm. Parce qu'on aurait pu nous dire qu'on construit le stade ailleurs, on fait un très beau stade ailleurs, et puis on garde la structure dans l'État, c'est parfait. Mais ce ne sera pas cela. On fait un stade au même endroit.
Donc c'est un phénomène qui est général à tous les clubs martiniquais, ce manque de moyens, ce manque d'infrastructures.
Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, il y a des communes quand même, comme Rivière-Pilote, et puis aussi
Lamantin,
Fort-de-France, où il y a quand même des infrastructures. Hein. C'est plutôt quelques communes excentrées comme ça qui souffrent un peu de stade. Puis surtout, ne pas pouvoir jouer en nocturne aussi, on est pénalisé. Parce que ce sont des amateurs, ils travaillent la journée. Donc quand ils arrivent pour s'entraîner, il est déjà 18h. 18h, il faut des stades bien éclairés. Mm-hmm. Donc là, non, par contre, nous, il faut qu'on joue, qu'on soit sur le stade dès 17h pour qu'à 18h, 18h30, les entraînements soient terminés. Quoi. Donc les jeunes ne se défoulent pas. C'est, on n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir permettre à ces jeunes de s'exprimer pleinement.
Oui, puis jouer à 15h en pleine chaleur, c'est pas non plus facile. Hein.
Tout à fait.
Il vaut mieux jouer le soir.
D'ailleurs, c'était un peu pour cela qu'on attendait, on s'attendait à jouer avec l'équipe d'Arles à 15h30.
Ça aurait été mieux. Alors, moi, je voudrais également signaler, Philippe, que le football s'est un peu rééquilibré en termes géographiques par rapport, effectivement, aux performances de la Samaritaine du réveil sportif. C'est vrai que le football martiniquais penchait plus centre-sud depuis beaucoup d'années. Et là, effectivement, eh bien, ce rééquilibrage fait que, bon, mais le martiniquais de Monsieur Tout-le-Monde, grâce au succès de la Samaritaine, eh bien, insiste à un renouveau global du football martiniquais, parce qu'effectivement, on se rend compte que sur la côte atlantique, effectivement, on joue.
Pas grand-chose.
Voilà, pas grand-chose, et on joue beaucoup mieux au football qu'auparavant.
Et par rapport aux Guadeloupéens, il y a une petite rivalité, une petite concurrence, il y a un petit derby à chaque fois.
Eh bien, disons, le derby, il est là maintenant par le biais de la Ligue Antille, quoi.
Oui, c'est ça.
Mais auparavant, non, s'il n'y a pas Ligue Antille, bon, ils jouent dans leur secteur, nous avons le nôtre, ils ont leur championnat, nous avons le nôtre. Par contre, la Ligue Antille, mais permet de mettre un petit piment. On s'est rendu compte d'ailleurs que là, la semaine dernière, les quatre équipes martiniquaises, enfin des trois, ont pu se tenir, c'est-à-dire le club franciscain qui a eu un match nul, la Samaritaine qui a gagné, le Réveil Sportif qui a gagné, et puis il n'y a que Rivière Pilote qui a eu à perdre 1-0, je crois. Mais à part ça, on a senti donc qu'il y a un peu cette résistance, et puis nous gardons de faire mieux au match retour pour que la Martinique puisse quand même légèrement dominatrice au niveau de cette Ligue Antille.
Alors Philippe, justement, à ce niveau-là, il faudrait que je vous explique un petit peu qu'il y a les championnats locaux, Guadeloupe-Martinique, et puis depuis quelques années, ça fait 3 ans ou 4 ans, nous avons instauré une nouvelle compétition donc, qui met qui oppose donc les 4 meilleures équipes guadeloupéennes aux 4 meilleures martiniquaises. Ça se fait donc, ça se déroule donc sur des matchs aller-retour avec élimination directe. Donc d'accord. Nous sommes comme la Ligue des Champions.
Ouais, en fait.
Voilà. Et donc là, pour l'instant, la première manche a été jouée en Martinique. Voilà. Et là, la deuxième se joue donc pour la Samaritaine en Guadeloupe le 9 février. La Guadeloupe, si elle gagne 1-0 parce qu'un but extérieur compte double, eh bien, elle va éliminer la Samaritaine. Donc la Samaritaine, qui a un avantage aujourd'hui au niveau de la victoire acquise en Martinique, doit aller défendre âprement cette victoire. Ouais. Et l'apport des supporters au président sera donc extrêmement important.
Eh bien, c'est pourquoi ils viendront. Et en plus, les Guadeloupéens nous ont déjà dit, on vous aura au retour.
Donc, il doit y avoir de l'ambiance quand même.
Voilà, tout à fait.
Oui. C'est ce qui explique le manque de moyens que beaucoup tentent leur chance en métropole.
Eh bien, mais oui, parce que d'une part, il faut se faire reconnaître. Bon, quand on est chez soi, des fois, ce n'est pas le cas. Donc on va se faire voir ailleurs, comme on dit, et essayer de percer, puisque vous n'êtes pas sans savoir quand même que les DOM ont quand même de très bons joueurs, des joueurs de très haut niveau, et qui simplement par manque de moyens n'arrivent pas à s'exprimer totalement. Mais si on les prend effectivement très jeunes, dès l'âge de 16-17 ans, parce que là en ce moment ce n'est qu'à partir de 20 ans qu'on les repère, mais si dès 16-17 ans ils peuvent partir, parce que j'ai par exemple un joueur, un gardien qui joue au Girondins de Bordeaux, le jeune Mélien, qui fait maintenant une très belle carrière de professionnel. Bon, donc ces jeunes là quand on vient on les repère, c'est pourquoi je ne me suis pas opposé du tout au départ de mon capitaine, qui est pourtant le meilleur joueur de chez nous. Je ne me suis pas opposé parce que je dis, il faut que ce jeune arrive à s'exprimer, arrive à peut-être à trouver son gagne-pain là-bas, à se faire une carrière, et ce sera tout à l'honneur de la Samaritaine et de la Martinique.
Sure.
Donc voilà, il y a effectivement des jeunes. Même la semaine dernière, nous avons remarqué au niveau du beach soccer, c'est ça. Eh bien, on a détecté des jeunes martiniquais qui tout de suite pourront faire partie de l'équipe de France. Donc il y a matière ici, il y a simplement que nos responsables locaux essayent de mettre un peu plus de moyens pour que nos jeunes chômeurs en grande partie arrivent à s'exprimer à travers le sport et le football notamment.
Oui, puis vers chez nous, on a le plus célèbre de tous les Martiniquais, c'est Thierry Henry.
Tout à fait.
Thierry Henry qui a joué aux Ulis et qui a fait ses classes à Clairefontaine.
Ah bien.
Le France-Costa Rica, ça a été pour vous un booster
Eh bien, disons quand même, oui, bien vécu, puisque, bon, je crois que ce jour, le stade de la Martinique, hein, le stade de Fort-de-France était plein, donc il y avait un intérêt certain, et puis ça a permis quand même aux Martiniquais, bon, ben, de toucher quand même, ou encore de côtoyer de très près les grands joueurs.
Comment vous vivez le championnat de Ligue 1 ici en Martinique? Il y a une étape passion, il y a deux clubs, hein, Paris-Marseille.
Oui, tout à fait. Disons que à mon seul niveau, puisque comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, je ne suis pas un passionné de football, je n'ai été qu'un président, un homme de la société pressenti simplement par des Samaritains pour venir diriger le groupe, mais je crois savoir que les Martiniquais, qu'ils soient footballeurs ou non, les supporters martiniquais, eh bien, sont très friands de football français, hein, puisqu'il y a même des clubs de supporters qui se montent à la Martinique. Je crois savoir qu'il y a un club de supporters de Bordeaux,
de Marseille, hein,
et de Marseille, donc il y a des clubs de supporters qui s'expriment ici, qui organisent des moments de rencontre et qui mettent des salles avec toutes sortes de télé et de techniques à la disposition donc des supporters pour supporter leurs fans, pour être les fans des clubs de là-bas. Donc il y a beaucoup de mouvements autour des équipes de France et de Ligue 1 en Martinique.
Et puis naturellement, on a aussi une admiration pour le football brésilien. Hein. C'est pas très loin le Brésil, il y a quand même cette connotation quand même. Hein.
Oui, disons que, enfin, pour ce que je sais moi, par le passé, le Martiniquais était beaucoup plus brésilien. Mais je crois que à mesure qu'on avance, ils se rapprochent beaucoup plus du football français que du football brésilien. Pourquoi? Parce que aussi, ils constatent que dans l'équipe de France, eh bien, il y a beaucoup d'Antillais.
Bien sûr.
Hein, donc, l'Antillais se rapproche plus de l'Antillais que du Brésilien. Hein, moi, je reste persuadé. C'est un peu à cause de cela qu'il y a peut-être un petit glissement léger.
Et puis aussi, Président, à cause de la formation des cadres, parce que les cadres martiniquais sont formés donc là-bas, en France, et forcément, donc, ils rentrent dans la culture du football français au fur et à mesure. Donc, ils inculquent effectivement tout cela au football martiniquais. Et on voit disparaître, Président, ce côté brésilien dont on parlait, effectivement, le côté magicien du ballon, technicien sur le samba, il disparaît au profit, effectivement, de football tactique avec des consignes particulières.
Ouais, la rigueur, tout ça.
Tout à fait, on le sent.
Moins spectaculaire, en tout cas. Ouais.
Très bien. Il nous reste à vous remercier. Qu'est-ce qu'on peut formuler comme vœu pour votre club?
Eh bien que nous essayons cette année d'être le club champion, hein, puisque pour la saison 2007-2008, dans la mesure où, sans chauvinisme, hein, disons que nous avons connu un grand club, hein, que j'ai en admiration, c'est le club franciscain, qui a mené pendant 9 ans, mais on a envie simplement d'insuffler un petit sang nouveau, sans choquer qui que ce soit, simplement se dire, bon, eh bien, un petit changement, ce ne sera pas mauvais pour la Martinique, ça permettra simplement à la saison 2008-2009 de se dire, bon, eh bien, les clubs redémarrent, mais on a envie cette année que la Samaritaine mette un petit peu son grain de sel pour changer un petit peu la donne et puis permettre qu'il y ait un regain de dynamisme, parce que vous savez, quand un même club gagne comme ça pendant 8 ou 9 ans, il y a peut-être une certaine lassitude et des fois même un manque de fréquentation ou une réduction au niveau de la fréquentation des stades. Donc notre jeu permettra à ce public de renouer. Voilà.
Alors juste une question, Philippe, avant de le laisser partir. Président, si l'objectif, le vôtre, n'est pas atteint en fin de saison, autrement dit, donner ce titre à la Samaritaine, allez, dites-nous, vous allez remplir encore une fois. Vous allez rester.
Non, pour rien au monde. Pour rien au monde, quelle que soit la situation. Ma décision, elle est prise. Ouais.
Irrémédiable.
Ouais.
Ben, on verra ça. Merci.
Merci.
Alors, on reçoit le vice-président de la Ligue de football, Samuel Perroum. Samuel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vice-président de la Ligue, et puis aussi, vous allez aussi nous parler de la détection, hein, à place du CETER. Quel est l'état de santé actuellement du football martiniquais et même antillais, tout court?
Ben, je serais mal placé pour dire qu'il se porte mal. Non, je crois que il y a un consensus autour de la formation et de la préformation. Il y a un gros travail qui est réalisé par les clubs. Hein. Il faut pas oublier que l'essentiel finalement de la préformation se réalise dans les clubs. Et puis c'est vrai que la Ligue de football de la Martinique a mis en place depuis quelques années un certain nombre de structures. Je pense notamment aux sections sportives qui ont qui ont vécu dans les collèges, et puis aujourd'hui le rôle a été pris par l'UNSS, mais surtout à notre Pôle Espoir et puis au centre de formation au métier du football qui existe aujourd'hui dans les locaux de la Ligue. Donc voilà, il y a eu également un gros travail ces dernières années de fait en termes de formation des cadres techniques, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un certain niveau d'encadrement avec des animateurs seniors, des BE1 et un certain nombre de BE2 également. Donc c'est avec ces ressources-là qu'on arrive à faire travailler les jeunes, à dépister ce qui se fait de mieux, et puis à proposer au plus haut niveau effectivement un certain nombre de jeunes. Et les résultats sont là, puisque on a bien 5 ou 6 jeunes qui aujourd'hui sont en équipe de France de leur catégorie.
Oui, c'est vrai que de tout temps, le football antillais a été pourvoyeur de talents et d'internationaux.
Oui, et
ça continue.
Il y a une espèce de capacité naturelle des, on va dire, des sportifs ultramarins à avoir des résultats, à avoir de la performance. Ça se voit effectivement dans toutes les disciplines, beaucoup en athlétisme et puis en football également, mais dans d'autres disciplines également. Donc voilà, il y a comme un paradoxe, parce qu'en fait nous avons lorsqu'on compare les moyennes locales aux ratios nationaux, nous avons très peu de licenciés par rapport au nombre d'habitants. Et par contre, si on parle de l'athlétisme par exemple, on a énormément de sportifs inscrits sur les listes de haut niveau. Et puis pour ce qui concerne le football, comme on le disait, on a des beaucoup de jeunes aujourd'hui qui frappent aux portes des équipes nationales.
Mais par contre, ils sont obligés à un moment de partir, de tenter leur chance, soit en métropole, soit même carrément en Amérique du Sud.
Oui, si on veut donc toucher véritablement le haut niveau, on est bien obligé de partir, puisque les structures ne permettent pas de réaliser son rêve pour un jeune ici. Mais nous avons mis en place les structures de préformation et de formation qui permettent aux jeunes de rester le plus longtemps possible dans son milieu naturel avant d'intégrer soit comme aspirant pro, soit comme apprenti, soit comme stagiaire pro. Le très haut niveau.
Oui, parce que, une nouvelle fois, hein, vos problèmes, ce sont des problèmes d'infrastructure.
Oui et non. Moi, je pense qu'il y a eu de gros efforts de réaliser à la fois par les collectivités locales, et je pense notamment aux communes qui ont fait de gros efforts en termes d'amélioration des infrastructures. Je pense également au conseil général et au conseil régional qui apportent leur pierre à l'édifice. Hein. On a quand même aujourd'hui des stades qui permettent une bonne pratique de la discipline football. Maintenant, c'est surtout en matière de structures scolaires et parascolaires qu'il y a lieu d'améliorer un petit peu les choses, parce que bien entendu, entre 14 et 20 ans, il faut à la fois avoir la pratique sportive intensive qui permette d'arriver au haut niveau, mais également un accompagnement scolaire qui permette aux jeunes de pouvoir retomber, j'ai envie de dire, sur ses pattes si jamais ça ne marche pas pour lui en termes sportifs.
Et il y a de la place pour tous les jeunes, tous les clubs accueillent les jeunes?
Oui, il y a...
Parce qu'en métropole, il y a eu un problème, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet mondial qui a fait qu'on n'a pas pu accueillir tous les jeunes. Il y a eu des clubs qui ont dû refuser du monde. Est-ce que vous avez eu ce problème-là?
Ben non, malheureusement, on n'a pas eu, effectivement, après la dernière Coupe du Monde, les retombées en termes de nombre de licenciés qu'on aurait pu espérer. Il y a un maintien des chiffres du nombre de licenciés autour de 12 000. C'est un plateau qu'on a atteint il y a une dizaine d'années, au niveau duquel on se maintient jusqu'à présent. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des efforts à faire pour intéresser encore plus les jeunes au football structuré. Nous sommes en deçà des ratios nationaux. 12 000 licenciés football pour 400 000 habitants, c'est pas suffisant.
Vous avez aussi des problèmes de bénévoles. Vous connaissez aussi certains problèmes concernant le bénévolat.
Oui, comme partout. Oui, comme partout, mais... c'est une espèce en voie de disparition. Ouais. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut trouver des pistes nouvelles. On ne peut plus compter comme auparavant sur de bonnes volontés associatives. Il faut des moyens d'intéressement, soit par la fiscalité, soit en professionnalisant entre guillemets l'encadrement des associations sportives, parce que le temps du bénévolat a vécu.
Et il y a aussi des clubs qui s'allient, qui font des ententes dans les petits villages. Ça arrive aussi, ça ?
Alors, on encourage ça. Ouais. On encourage ça. On a encore trop cet esprit de clocher. Ouais. Si on prend l'exemple de la ville de Fort-de-France, qui possède encore, à notre avis, trop de clubs par rapport aux moyens dont disposent ces clubs et par rapport à, on va dire, la population des jeunes. Il faudrait effectivement qu'au niveau jeune, il y ait des ententes de jeunes, voire même des regroupements entre clubs pour optimiser en quelque sorte les moyens pour que il puisse y avoir une amélioration de la production, parce qu'aujourd'hui il y a une déperdition par rapport au fait que les clubs ont des difficultés en termes de logistique, des difficultés de moyens financiers, ils n'arrivent pas à régler les problèmes de transport de jeunes par exemple. Donc la réflexion est ouverte et je crois qu'il y a une volonté également de la municipalité de Fort-de-France de permettre de favoriser ces regroupements. Et c'est par là que passe une meilleure performance et de meilleurs résultats au niveau des jeunes notamment.
Et Martinique, Guadeloupe, un même combat, vous travaillez ensemble ?
On travaille ensemble, c'est vrai que le comité directeur de la Ligue de la Guadeloupéenne de football a des idéaux et des objectifs qui sont communs. Nous avons eu des résultats qui sont comparables, hein, puisque lorsqu'on regarde en termes de résultats des élites, on a eu des parcours un petit peu similaires entre la sélection de la Guadeloupe et la sélection de la Martinique. Hein. Je parle notamment des résultats en compétition internationale de la CONCACAF. On a des objectifs communs. On a des choses qu'on essaie de développer et de défendre ensemble, notamment auprès de la Fédération Française de Football. Tout ce qui est développement du football jeune, tout ce qui est développement de la masse, tout ce qui est détection, accompagnement des clubs, c'est effectivement un peu dans le même sens que nous travaillons.
Et le foot féminin, comment est-il ici ? Est-ce qu'il est très développé ou alors est-ce que vraiment il en est assez balbutiement ?
Il y a eu un gros effort de fait, j'ai envie de dire, c'est trois ou quatre dernières années, à la fois sous l'impulsion de la Fédération française, parce que là aussi, la direction technique nationale a donné un petit coup de frais et a donné des moyens pour que le football féminin se développe un peu partout en France, au niveau amateur je parle, et puis également grâce aux efforts réalisés dans la Caraïbe. Il y a eu beaucoup de moyens à la fois financiers mais également en termes d'encadrement technique qui ont permis de développer le football féminin dans la Caraïbe. Nous suivons un petit peu le mouvement. On a aujourd'hui une de nos jeunes qui est au très haut niveau, hein,
oui.
Puisque
voilà, Samuel, hein, ouais.
Voilà, c'est Wendy Renard qui est aujourd'hui donc footballeuse professionnelle, on peut le dire comme ça, dans la meilleure équipe féminine de France, à l'Olympique Lyonnais, qui a joué donc en Coupe d'Europe et qui elle aussi est donc en équipe de France des moins de 18 ans féminine. Donc on a un football qui a été hiérarchisé jusqu'à présent, jusqu'alors ça tâtonnait un petit peu avec une seule division. Aujourd'hui il y a une hiérarchie au niveau du football féminin, on a une division inférieure, une division et une excellence, et puis on a surtout une commission féminine avec des gens hyper motivés. Alors ce qu'il faut signaler en termes de football féminin, c'est que nous avons quelque chose d'assez rare, puisque nous avons une jeune femme titulaire du brevet d'état d'éducateur sportif deuxième degré, la personne de Charlène Marie-Jeanne.
D'accord. Est-ce que le football diversifié aussi est très représenté dans la Ligue de Martinique ? C'est-à-dire que le beach soccer, le futsal, le foot à deux, c'est des activités qui commencent aussi à voir le jour ici ?
Alors ça commence, il y a eu une opération donc récente, hein, mm-hmm. avec la venue d'Éric Cantona, sélectionneur de l'équipe de France de Beach Soccer, et Henri-Émile de la direction technique nationale. C'était une demande de la Ligue de la Martinique et une opportunité qu'on a su saisir par rapport à la Coupe du Monde de Beach Soccer qui était organisée en France à Marseille à l'été de cette année. Mm-hmm. Et demande pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a une culture qui est en train de disparaître. De tout temps, il y avait toujours un petit peu de football non structuré, de diversification du football comme ça, avec des championnats, ce qu'on appelait à l'époque les championnats à vacances. Il y avait également une pratique spontanée au niveau des plages. En créole, on parlait de football baudelamais. Ouais. Et puis, il y avait également une pratique spontanée dans les quartiers, dans les rues, du football en jeu réduit, ce qu'on appelle chez nous le football couloir. Mmh. Il y a une espèce de mutation de la société, les jeunes ne sont plus tellement intéressés par ce football non structuré, et aujourd'hui, malheureusement, les jeunes ne jouent pratiquement plus qu'en club.
D'accord.
Et nous voulons absolument réinjecter cette dynamique, retrouver cette pratique spontanée, cette pratique de masse, parce qu'à l'évidence, c'est pas la pratique de masse régulière qu'on va pouvoir améliorer l'élite. C'est ce qu'on voit dans les grands pays à culture football, hein, comme le Brésil, le Portugal. C'est parce qu'on joue beaucoup dans les rues, c'est parce qu'on joue beaucoup sur la plage qu'on arrive à créer des joueurs d'exception.
Oui. Henri-Émile, hein, qu'on connaît bien, puisqu'il vient de chez nous, là-bas, de Pogny-la-Forêt. L'arbitrage, c'est aussi un phénomène sensible. Ici, vous formez de futurs arbitres ?
Phénomène sensible, sujet sensible,
oui.
Effectivement. Et là aussi, il faut se battre, comme partout, je pense, parce que la société est en train de muter. Les arbitres sont décriés. Il y a malheureusement en Martinique et aux Antilles une mauvaise tradition de contestation systématique en football notamment, parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe en handball, les comportements sont totalement différents. Et donc depuis une quinzaine d'années, même depuis l'ancien comité, il y avait eu de gros efforts de fait en matière de discipline pour permettre d'inverser un petit peu la tendance. Nous avons repris le flambeau, notamment en termes de formation, en créant des écoles d'arbitrage, en partenariat avec les associations d'arbitres, hein, notamment l'UNAF, mm-hmm. et puis toutes les bonnes volontés d'anciens arbitres qui ont créé des écoles d'arbitres dans les clubs. Aujourd'hui, on est en train d'inverser un petit peu la tendance, parce que c'est vrai qu'il y a eu une perte d'effectifs à un moment. Aujourd'hui, avec l'arrivée de jeunes arbitres, on inverse un petit peu la tendance. Mais c'est pas facile.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette année 2008 pour votre district, pour votre ligue ?
Alors pour la ligue, nous, on a un objectif qui est important, c'est l'équilibre financier, parce que nous avons quelques difficultés en ce moment, un petit peu comme toutes les associations sportives. Il faut absolument trouver des pistes nouvelles pour permettre à cette discipline, qui est finalement la discipline sportive la plus importante, des pistes nouvelles pour permettre de trouver les moyens qui permettent de se maintenir à un certain niveau de pratique, à un certain niveau de performance. Donc ça passe par les partenaires privés. Nous avons réalisé une opération donc par l'organisation de tournoi de beach soccer qui a été en la matière en tout cas exemplaire, hein, sans fausse modestie, parce que nous avons réussi à mobiliser un certain nombre de partenaires. Alors, c'est vrai qu'il y avait des noms, il y avait notamment Eric Cantona qui a permis d'ouvrir un certain nombre de portes, mais c'est comme ça qu'il faut essayer d'associer à la fois les partenaires privés et les partenaires institutionnels. Il faut trouver des pistes nouvelles, parce que le football et les manifestations sportives sont créatrices d'une certaine économie, donc il faut qu'on puisse reverser les choses. La chose financière doit être reversée au football lorsque le football crée l'événement. Donc je pense notamment à tout ce qui est commerce non sédentaire autour des stades. Il faut qu'avec les collectivités, on puisse trouver les clés de répartition qui vont bien pour permettre au football de vivre de ce qu'il produit en termes d'activité économique. Il y a des pistes comme ça à trouver. Donc je crois que ce compromis, cet équilibre entre la création d'activités et les ressources, ça doit être un objectif pour cette année, de manière à aborder la prochaine mandature avec une, avec une certaine sérénité.
Vous avez des anciens pros qui reviennent sur l'île. Est-ce que, justement, utiliser leurs compétences, ça serait peut-être...
Alors, pas suffisamment, parce que les anciens pros, peut-être contrairement à ce qu'on voit un peu plus en Guadeloupe, les anciens pros ont tendance à rester dans un cocon qui se sont créés en métropole. Mais même avant qu'ils terminent leur carrière, là aussi, s'ils peuvent venir donner un coup de main, pas forcément financier, mais ne serait-ce que par l'image, par des conseils, par la sensibilisation qu'ils peuvent faire auprès des jeunes, c'est ça devrait être une bonne chose. Nous avons commencé, puisque dernièrement, la sélection des 14 ans qui partait en compétition en Guyane a été mise au contact, au moment de la trêve, en décembre, a été mise au contact des jeunes qui sont dans les équipes pro aujourd'hui, comme Gary Bocali, Emmanuel Rivière ou autres Méliens qui aujourd'hui sont dans les clubs pro, pour revenir, dire aux jeunes, bon, voilà, nous étions comme vous en catégorie 14 ans, en train de préparer le tournoi Claude Élise de la Guyane, en train de préparer la Coupe nationale des cadets, et aujourd'hui nous sommes au plus haut niveau du football français.
Au niveau de la détection, on met tous les moyens en œuvre pour que ces jeunes puissent, dans les meilleures conditions, apprendre le futur métier de footballeur, tant psychologiquement que physiquement.
Oui, alors aujourd'hui les structures sont embryonnaires, mais sont quand même en place. Hein. Malheureusement, le CTR n'est pas là, il aurait pu en parler mieux que moi. Mais je crois que, bon, globalement, la filière, c'est quoi? C'est d'abord le club, évidemment. Et très vite, hein, avec la formation des cadres aujourd'hui, on arrive à repérer les capacités chez un jeune. Il y a assez régulièrement des opérations de détection qui sont organisées par des émissaires qui viennent des clubs pro. Et la Ligue de football favorise ce type d'opération à partir du moment où c'est bien cadré et où ça ne gêne pas les calendriers des compétitions de jeunes. Et puis, il y a notamment cette fameuse Coupe nationale des cadets. Donc, ça concerne les meilleurs jeunes de 14-15 ans, de 14 ans, et qui, pour la plupart, en tout cas la plupart de ceux qui aujourd'hui sont dans les clubs pro et sont dans les équipes nationales de leur catégorie, ils ont été repérés à ce moment-là. Et puis, je vous parlais des deux autres structures qui existent, et que sont le Pôle Espoir et le centre de formation qu'on a aujourd'hui, permettent également d'accompagner les jeunes entre 14 ans et 18 ans.
Oui, parce que laisser sa famille partir loin et puis dans le froid, il faut être armé quand même, hein. Il faut être blindé.
Voilà, donc c'est ce qu'on a voulu, éviter, que les jeunes ne partent trop tôt, donc, et créer des structures de préformation ici qui servent de tremplin avant que le jeune n'arrive effectivement au niveau supérieur, au niveau des équipes pro.
Aujourd'hui, le joueur antillais a gagné en rigueur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins ce côté peut-être un peu brésilien, plus européen, entre guillemets.
Oui, donc c'est bon, c'est à double tranchant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Malheureusement, on a l'impression qu'on ne crée plus. Depuis quelques années, nous ne créons plus de joueurs d'exception. Bon, c'est peut-être lié à ce qu'on disait, il n'y a plus ce football spontané de rue, ou très peu. Par contre, effectivement, on a gagné beaucoup en maturité tactique, parce que nous sommes dans un moule, hein. C'est tous les cadres techniques dans le système de la DTN française, qui est l'une des DTN les plus performantes du monde, hein. On n'a qu'à regarder comment la France arrive à exporter ses entraîneurs, et donc on est dans un moule et on a de bons résultats, en tout cas meilleurs qu'avant, au niveau des élites seniors, mais également des élites de jeunes. Les raclés qu'on prenait, notamment en Coupe nationale des cadets, on ne les prend plus. On a des sélections qui arrivent à rivaliser avec les meilleures sélections régionales de France métropolitaine, avec des jeunes qui sont dans des centres de formation. Donc voilà, on a gagné, c'est vrai, en rigueur tactique, en philosophie, en concept, mais malheureusement, on a du mal à sortir le joueur d'exception.
C'est aussi parce que vos cadres sont formés comme ça, aussi ici maintenant.
Absolument. Donc c'est vraiment le moule de la du schéma national de formation français et puis du schéma national de formation mondial. Hein. Il y a plus de soccer aujourd'hui. Hein. C'est il y a un nivellement par le haut et on n'a qu'à voir le nivellement qui existe au plus haut niveau. Les élites seniors sont très proches aujourd'hui. Il n'y a plus le décalage qui existait entre les nations européennes et les nations, ne serait-ce que les nations caribéennes. Aujourd'hui, Trinidad est capable de rivaliser avec l'Allemagne, avec l'Angleterre. Donc il y a un véritable nivellement par le haut parce qu'il n'y a plus de secret avec la mondialisation des moyens de communication et de la mondialisation de la formation. Il suffit d'appliquer ce qui se fait partout et puis on arrive à rivaliser avec les meilleurs.
Comment on vit le restant de la saison, les grands événements, les Coupes d'Europe, les championnats comment on vit tout ça ici?
Il y a une sensibilité très forte pour le football européen aux Antilles. Et il y a beaucoup de
supporters. Parce que vous recevez plusieurs télés, vous recevez plusieurs chaînes.
Oui, oui.
Donc voilà. On a le choix ici.
On a absolument le choix. Et ce qui nous pose d'ailleurs problème par rapport au football local. Parce que les institutions n'ont pas encore compris que, compte tenu du décalage horaire, c'est souvent à l'heure des matchs de l'après-midi ici qu'on a les retransmissions en direct des plus grands matchs européens. Bon, donc il y a une concurrence, je le dis, déloyale entre la production télévisuelle et la réalité du football amateur local aux Antilles, compte tenu du décalage horaire. Les amateurs de district, de division d'honneur, voire de CFA jouent l'après-midi, voire le matin en métropole, les matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2 se font le soir à 20h-21h. Donc il n'y a pas de concurrence possible. Alors que compte tenu du décalage horaire, lorsque vous avez un Stade Spiritain, un New Club à 15h30 un samedi après-midi, et dans le même temps vous avez Paris Saint-Germain Lyon, et de l'autre côté Chelsea Newcastle,
il n'y a pas photo,
et parfois la tentation peut être forte pour le spectateur de devenir téléspectateur devant un verre de coca.
Alors,
chez lui.
Oui, justement, c'est un problème même pour vous, Samuel, pour la couverture de ces grands événements sur donc Radio Caraïbes.
Nous avons fait le choix d'un nouveau concept depuis quelques temps, place à la Ligue 1.
D'accord.
Ça, c'est pas un choix de cœur, ni culturel, vous avez compris. Nous sommes une radio commerciale, et donc, il y a effectivement des exigences financières qui passent avant tout. Donc, il y a des contrats qui ont été signés, qui font que la Ligue 1 est prioritaire aujourd'hui. Ça veut pas dire que le football martiniquais n'a pas sa place. Et nous sommes bien navrés de ce que nous ne puissions pas, effectivement, promotionner encore mieux ce football. Mais bon, je pense que d'ici quelques temps, les choses vont revenir. En l'état, c'est quoi? C'est comme auparavant. Eh bien, nous avons toujours été le partenaire du football martiniquais, comme d'autres radios en Martinique. Nous avons une équipe, comme je le disais, une équipe de reporters aguerris qui travaille depuis quelques temps. Nous avons la possibilité, effectivement, de suivre tous les sports. Nous avons également des équipements qui nous permettent de le faire. Nous suivons les équipes même en déplacement, lorsque la Martinique va jouer à l'extérieur dans la région Caraïbe, lorsque les clubs partent en Coupe de France, nous sommes là également. Il nous arrive d'avoir des petits soucis avec la Ligue de football, par exemple, une compréhension, mais bon, tout s'arrange finalement. C'est normal. On ne peut pas effectivement vivre une année avec une presse sportive qui est à la recherche de scoops, qui tatillonne parfois, avec donc des ligues, football ou autres, qui, elles, cherchent à faire le travail au mieux. C'est vrai que y a toujours des petites choses qui se passent, qui font que les journalistes parfois ne sont pas bien vus, mais bon, globalement, ça se passe très bien. Ça se passe très bien globalement. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que RCI, au niveau de sa presse sportive, ne soit pas à la hauteur. Au contraire, je pense que nous avons, par la qualité de nos reporters, nous avons contribué à la promotion du sport martiniquais. Et nous continuons toujours à le faire.
Et harmoniser les calendriers, c'est facile parce que...
Difficile. C'est difficile d'harmoniser les calendriers interdisciplinaire. On essaie de le faire. La Ligue d'athlétisme nous envoie systématiquement ses compétitions. On essaie de le faire par rapport au handball. Mais c'est pas facile. Et c'est difficile également de le faire, même en intra-football, parce qu'il y a tellement de compétitions, il y a tellement de modifications dans les calendriers, notamment caribéens ou d'autres types de compétitions, comme la Ligue Antilles avec la Guadeloupe, qu'on a vraiment parfois du mal.
Très bien. Merci en tout cas. Alors, Samuel, on va maintenant peut-être parler un peu du championnat de Ligue 1 pour finir donc ces deux heures d'émission passées ici à Fort-de-France. On retrouve pareil les Marseillais, les passionnés du Paris Saint-Germain. Ce sont les deux gros clubs qui dominent ici la ferveur, la passion, où il y en a pour tout le monde.
Les Stéphanois sont là aussi.
Ah, les Stéphanois, ouais.
Alors, avec la nuance que les Stéphanois, les Marseillais aujourd'hui, certaines néo-marseillais sont des ex-Stéphanois qui, au temps de la petite chute du Crous de Saint-Etienne, eh bien, ont vite fait de chavirer vers Marseille. Bon, ils ont essayé de revenir vers les Verts, mais finalement, bon, comme les Verts ne marchent pas tellement comme ils veulent, ils sont restés un petit peu à Marseille, mais c'est vrai que ce sont les deux gros pôles qu'on retrouve, c'est Marseille et Saint-Etienne, avec d'autres tendances. Il y a des Lyonnais. Alors, au fur et à mesure, les Lyonnais, ça commence, parce qu'effectivement le supporter lyonnais, il est jeune en général, le profil il est jeune, il a découvert le football ça fait quoi, fait 7-8 ans et finalement qui était en tête du classement de la Ligue 1, c'était Lyon, donc il a un petit peu grandi avec Lyon et donc on retrouve plutôt des supporters lyonnais parmi les jeunes, mais sinon eh bien, il y a des tendances qui sont représentées. Bordeaux est très représenté en Martinique, il y a une affection particulière, surtout parce que Marius Trésor a joué à Bordeaux notamment, on retrouve également tout cela.
On joue beaucoup au loto sportif, on aime jouer, je sais que vous avez une émission de pronostics, est-ce qu'on joue beaucoup ?
On joue beaucoup, la Martinique est un pays où on parie beaucoup sur le loto sportif. Notre émission a amené un plus incontestable, ça a été la seule émission de pronostics de foot en métropole, je ne sais pas si c'est dans les, au niveau national je veux dire, c'était la seule émission de pronostics de foot, je ne sais pas si on a été rejoint par d'autres médias depuis, mais en tout cas, nous sommes donc parrainés par la Française des Jeux, en plus, l'émission est parrainée par la Française des Jeux, donc cette émission a permis effectivement la promotion du loto-foot et c'est une émission très écoutée, ça fait près de 10 ans qu'elle dure cette émission, on s'en rend pas compte, mais finalement le temps passe vite, près de 10 ans et toujours aussi animée avec, vous le verrez demain, enfin vous le verrez quand vous reviendrez sûrement, mais en tout cas donc avec des pronostiqueurs qui sont vraiment très cultivés parce qu'ils connaissent le foot. Ils connaissent le foot national, international, ils le connaissent par cœur. Et ils supportent des clubs en plus, ça crée des véritables passions. Et derrière, il y a des auditeurs qui appellent, donc ça fait vraiment quelque chose d'assez explosif. Pendant une heure et demie, on est comme des fous, quoi. C'est génial.
Donc ça, on va rappeler l'heure, hein. On peut vous capter sur Internet aussi.
Voilà, alors c'est 19h30, heure locale, heure martiniquaise, donc ça fait un peu tard chez vous, quoi.
Oui, d'accord, très bien. Sinon, un petit mot sur toutes les autres grandes compétitions, l'Euro qu'on va vivre, vous allez aussi avoir une couverture importante.
L'Euro, non. En général, nous, on regarde. La Coupe du Monde, la dernière, RCI a fait une série d'émissions avec des invités prestigieux qui sont venus nous rejoindre. Je parle du préfet et qui sont venus discuter football avec nous, même des personnages qui n'étaient pas trop football. On a fait des émissions spécifiques jusqu'à la fin du Mondial. La France a eu la chance d'aller jusqu'au bout, donc c'était vraiment génial. Mais en tout cas, nous avons parfois ces actions que nous faisons pour accompagner les compétitions nationales, surtout lorsqu'il y a effectivement des Antillais qui sont des Martiniquais qui sont engagés. Donc on le fait souvent. Mais là, on suivra l'Euro un peu de loin cette année, j'ai l'impression.
Très bien. Merci Samuel de nous avoir reçus dans des conditions très confortables ici à Fort-de-France pour nos émissions Tribune Sport et Tribune Foot.
C'était avec beaucoup de plaisir. En tout cas.
Et puis on va rendre antenne donc à nos amis là-bas sur Rambouillet, tout plein de soleil. Et puis on va finir un petit mot en créole.
Allez-y, je vous écoute.
Alors, si je dis bien, Tchembe, Red Pamoli.
Exactement.
Voilà. Eh ben, allez, c'est le mot de la fin. Merci, messieurs.
RVE, il est 11h.